partenaire de Fréquence Mistral, AISMT 04 du réseau Présence PACA Corse, votre partenaire santé au travail, présent à vos côtés. Bonjour à toutes et tous, merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. Fréquence Mistral s'associe à l'AISMT 04, votre partenaire en santé au travail, pour vous proposer une série de 7 émissions mensuelles dédiées à la prévention et au bien-être des salariés. La seconde émission portée sur les risques chimiques dans les métiers de la coiffure et autres. Je précise que vous pouvez, chers auditeurs, écouter les deux premières émissions en replay sur notre site fréquencemistral.com, onglet Manosque. Aujourd'hui, cette troisième émission sera consacré au TMS, entendez par là trouble musculaire squelettique, qui représente 88% des maladies professionnelles en 2024. Alors, nous allons parler aujourd'hui des saisonniers, ça tombe bien parce que c'est l'été, avec un travail très physique, et également à l'inverse des métiers administratifs, par exemple, qui semblent moins physiques, mais pourtant qui représentent aussi un risque, car rester assis devant un écran toute la journée n'est pas sans conséquences. Sur le plateau, nous recevons Sandrine Magnan, directrice générale de l'AISMT 04. Bonjour Madame Magnan.
Bonjour Nathalie.
Comment allez-vous ?
Très bien.
La reprise, vous étiez en vacances.
Oui, c'est vrai que c'est une période estivale et qu'on peut profiter un petit peu d'un repos en tant que tel. Et c'est vrai que le sujet qu'on a décidé de prendre aujourd'hui, c'est justement parler de la restauration, puisque c'est une grande activité pour nous d'un point de vue territoire, de tous ces cafés-restaurants qui nous accueillent autant pour notre activité touristique que pour, bien sûr, nos locaux. Donc c'était un sujet à prendre j'allais dire, pour ce mois d'août.
Alors, quand on parle de TMS, de quoi parle-t-on concrètement et quels sont les premiers signes auxquels il faut être attentif ?
Alors, c'est vrai que les TMS représentent, comme vous l'avez dit en introduction, 88% des maladies professionnelles. Je crois aussi que ça représente 30% des arrêts de travail en tant que tel. Donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce risque qui, finalement, est très répandu.
J'aurais jamais pensé, vous voyez.
Tout à fait. Et qui peut être aussi très handicapant, parce que si ça crée en effet des maladies professionnelles, ça veut dire qu'il y a certaines activités professionnelles qu'on ne peut donc plus exercer. Et donc, on peut aussi s'interroger, est-ce que c'est finalement un risque suffisamment maîtrisé professionnellement, puisqu'on a tendance des fois à se focaliser sur des risques beaucoup plus immédiats, beaucoup plus des fois graves et mortels. Mais il ne faut pas oublier ce volet-là.
Beaucoup plus visible aussi.
Oui, tout à fait.
Alors que là, ça a l'air de s'installer petit à petit et dans le temps.
Voilà, c'est plus un effet, on va dire, différé en tant que tel. Et donc souvent, on a peut-être tendance à le mettre un peu moins prioritaire par rapport aux autres. Alors, il y a plusieurs niveaux de signes. Les tout premiers signes précurseurs, souvent, on a tendance à un petit peu les négliger. Ça va être des difficultés, ce qu'on appelle des douleurs qui vont apparaître en fin de journée en tant que tel. Mais le temps de récupération, la nuit ou pas, ou le repos, va faire que cette douleur, en fait, légère, va disparaître en tant que tel. Donc, c'est des premiers signes. Ça va être aussi les raideurs matinale sur différents types d'articulations, notamment on va dire le dos en tant que tel. Ça peut être aussi une fatigue un petit peu inhabituelle et inexpliquée. À partir de là, peuvent s'installer un deuxième niveau après de signes qu'on va appeler beaucoup plus intermédiaires. C'est là où en fait le salarié va commencer à se plaindre. On va dire quand on se dit plainte, c'est plainte d'un point de vue médical et auprès de son médecin éventuellement traitant et qui va mettre en place des premiers traitements parce qu'en fait la douleur va commencer en fait à s'installer. C'est-à-dire malgré un repos, malgré la nuit, finalement la douleur elle intervient plutôt en journée. À chaque fois que je fais tel geste, et donc là, c'est des signes, on va dire, beaucoup plus intermédiaires, où en fait, cette douleur, elle commence à s'installer, elle commence à devenir persistante.
Alors, je me pose une question, parce qu'on parlait de douleur le matin, de raideur, de différentes douleurs. Lorsqu'on a 20 ans, ok, 30 ans, 35 ans, mais par exemple, quand on a 50, 55 ans, est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'âge? Comment faire la différence entre une douleur qui est due à une mauvaise position au travail et puis l'âge qui avance et le corps qui se transforme un petit peu?
Alors, c'est vrai qu'on vieillit tous. Oui. Ceci est un état de fait. Donc, c'est sûr qu'il faut, en fonction de son âge, justement, faire attention. On va parler, justement, de bouger en deuxième partie. Il est important, en effet, de continuer à s'étirer et d'avoir une activité, on va dire, active, une activité physique pour, justement, limiter les effets, du vieillissement. Ce qui va permettre de dissocier par rapport à la question des TMS, hein, troubles musculo-squelettiques, c'est justement en fonction après une tâche. C'est-à-dire que après avoir en effet travaillé toute la journée, si j'ai des premières douleurs, j'allais dire de dos, c'est peut-être lié à mon activité de la journée. Si en effet le week-end, je l'ai pas forcément. Si en effet tous les jours, et parce qu'en plus c'est lié aussi avec l'âge, l'âge va accentuer bien sûr ces phénomènes-là. Mais on voit et on constate de plus en plus des problèmes justement de troubles musculo-squelettiques plutôt
chez les plus jeunes.
Sur les plus jeunes, sur les 20 ans, sur les 30 ans en tant que tel. Donc oui, il y a s'approprier son propre état de santé en tant que tel, tout le long de sa vie, et même justement après 45 ans, après 50 ans, d'être d'autant plus vigilant à ça. Mais on va voir des signes qui font que c'est vraiment à l'issue d'une tâche que je vais faire pendant 4 heures, 7 heures, qui fait que là, je vais vraiment faire un lien entre la tâche que je fais et la douleur que je vais ressentir.
Donc si on est attentif, on peut faire la différence.
On peut faire la différence, mais il est vrai qu'à partir d'un certain âge, les deux effets vont se faire. Et c'est pour ça qu'une bonne aussi hygiène de vie est importante aussi pour soi, pour vieillir, j'allais dire, dans les meilleures conditions en tant que telle. Et oui, notre corps vieillit. Donc souvent, en effet, aussi professionnellement, il faut aussi accepter que ce qu'on faisait à 25 ans, on va peut-être plus du tout les faire de la même manière à 55 ans, forcément. Donc ça, c'est des enjeux, en effet, de vieillissement de la population que doit prendre aussi en considération les employeurs. On ne peut pas lutter contre le vieillissement, mais peut-être aussi de se dire que l'intensité ou les modes d'organisation qu'on fait en fonction de l'âge de ses salariés doit être aussi adapté, justement, parce qu'il y a quand même un état de fait sur lequel on ne pourra pas limiter, qui est le vieillissement de la population.
Au niveau est-ce que vous souhaitez maintenant aborder le cas des saisonniers qui ont un travail très physique?
Alors physique, oui, tout à fait. Donc on a voulu prendre, c'est l'époque, les sujets de la restauration, de l'hôtel-restauration au sens large. Alors c'est vrai que dans la restauration, on a tendance à justement focaliser sur les risques les plus principaux, et c'est-à-dire souvent les risques de la cuisine. Il y a les questions qui préoccupent bien sûr tous les restaurateurs, qui est l'hygiène alimentaire, hein, qui est leur première priorité quand même, hein, qui est la satisfaction de leurs clients, les questions de brûlure, de coupure ou de sol glissant, puisque justement l'hygiène fait que... Et souvent, on a tendance à focaliser principalement sur la cuisine. Et c'est pour ça qu'on voulait évoquer la question des serveurs, qui sont tout aussi indispensables
auxquels,
hein, dans le fonctionnement.
Auxquels on ne pense jamais, finalement.
On
ne
pense pas forcément en tant que tel. Et c'est vrai que même s'ils bougent, et que c'est très important de bouger, justement, ça, c'est le point fort de ce métier-là, contrairement à des métiers beaucoup plus sédentaires, je pense qu'ils font facilement leurs 8000 pas ou 10 000 pas par jour, comme c'est recommandé en tant que tel. Mais c'est vrai qu'on va... C'est comme toute question en médecine et dans le fonctionnement du corps, c'est toujours les excès. Les excès à ne pas bouger et les excès à trop, bouger dans une durée ou dans une répétition en tant que telle. Donc c'est vrai que le fait d'être debout, hein, c'est souvent forcément des postures qui sont debout prolongées toute la journée. Forcément, en termes de vision clientèle, de voir un serveur assis, c'est pas correct vis-à-vis de la clientèle en tant que telle. Donc on va avoir des problématiques principales d'un point de vue musculo-squelettique, le dos, parce qu'il y a de la manipulation en tant que serveur. On ne dirait pas en tant que tel, mais porter un plateau avec 3 sodas, les verres, ça peut facilement monter à 5 kilos en tant que tel. Hein. Il faut savoir qu'un serveur en moyenne, ça dépend bien sûr le nombre de couverts, si c'est que de l'activité de café, bar, ou c'est de l'activité de restauration, mais ça peut aller entre 60 kilos et 200 kilos au jour quand même. Hein. On ne dirait pas.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme. Donc il y a forcément les questions de dos. Forcément, les membres, ce qu'on appelle supérieurs, hein, c'est-à-dire les bras, que ce soit l'épaule, les coudes ou les poignets, mais principalement l'épaule et le coude, et éventuellement aussi sur les questions des jambes, notamment pour des questions de problématiques de circulation sanguine, ce qu'on appelle les jambes lourdes en tant que telles.
Parce qu'il dit souvent, on fait des petits pas.
Et ça, oui.
Ils évoquent souvent ce...
Le piétinement.
Voilà, le piétinement.
On appelle ça le piétinement, en effet, en tant que tel.
Il y a aussi le poids cumulé, comme vous l'avez dit, qui peut avoir un réel impact sur le dos et les articulations. Alors pour eux, quels sont les premiers signes qu'ils peuvent détecter? Toujours ça, pareil, comme vous
disiez.
C'est un petit
peu ces questions de douleur. Donc, c'est vrai qu'en fait, un serveur, tout dépend le type d'activité. Mais il y a une partie, en effet, qui va être de manipulation, qui peut être autant réceptionner, en effet, de la marchandise, et notamment les caisses de bouteilles, hein, qui ont un certain poids en tant que tel. On en reparlera là-dessus. Il y a aussi dresser. Il y a aussi éventuellement réorganiser, éventuellement, des fois, les salles. Donc, la manipulation, éventuellement, des chaises et restaurants. Enfin, les chaises et les tables, c'est, j'espère que pas très fréquent, mais ça peut arriver. Et bien sûr, le transport des plats et des plateaux qui sont en effet donc quotidiens. Alors, c'est vrai que sur des périodes de service, et notamment sur les temps forts, surtout s'il y a de la restauration en tant que telle, mais c'est vrai que porter un plateau tous les jours à bout de bras, c'est le cas vraiment de dire, ça crée en effet une usure, on va dire, prématurée, notamment voilà, des problématiques de tendinite, des différents types d'articulations.
Alors comment l'employeur peut concrètement réduire ces risques, adapter ? Ça me paraît compliqué, non ?
Alors,
qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il a ? Quelle marge de manœuvre il a ?
Quelle marge de manœuvre ? Ouais. Il y a une première marge de manœuvre, des fois qu'il n'a pas forcément, c'est dans l'organisation de ces espaces. Notamment si on prend en compte des emplacements qui sont dans des centres anciens, dans des bâtiments, j'allais dire, préexistants. Alors, c'est vrai qu'il y a trois questions à se poser. L'organisation de ces espaces, l'organisation de ces rangements et de ces stockages, parce qu'il y a quand même beaucoup de transport, d'intégration, bien sûr, des marchandises et du stockage et de l'utilisation de ces stockages au quotidien pour servir les clients, et l'organisation, on va dire, des tâches qui est beaucoup plus de l'organisationnel en tant que tel. Alors, on va dire, bien sûr, idéalement, parce qu'il faut prendre en considération les contraintes des locaux. Je reviens, dans les centres anciens, ce n'est pas toujours évident. C'est sûr qu'il faut essayer de limiter les tailles des conditionnements. Je sais que dans l'agroalimentaire, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les kilos de farine ou de sucre, de réduire et de ne pas avoir forcément des choses à 70 kilos. Mais c'est vrai que les caisses, j'allais dire, de bouteilles ont un certain poids. Et souvent, la question, c'est de se dire soit on a la capacité de pouvoir créer un nouvel espace. Donc là, il faut prendre en considération que ce soit la livraison, justement, des marchandises, d'éviter les escaliers, parce que qui dit escalier, qui dit finalement, je n'ai pas la possibilité de pouvoir prendre ce qu'on appelle des outils de manutention, parce que ce sont des chariots. Donc, d'éviter au maximum, bien sûr, entre la livraison par le livreur jusqu'au stockage, d'avoir au maximum, on va dire, des circulations qui sont les plus faciles, les plus directes, pour éviter au maximum de transporter. Mais ceci, c'est un monde idéal quand on récupère un bon emplacement, peut-être en centre, en ville, et des fois dans des bâtiments qui sont peut-être des fois classés, on n'a pas du tout la marge de manœuvre de pouvoir agencer.
Oui, parfois, toutes les bouteilles dans un bar sont stockées à la cave, il faut passer par un petit réduit,
c'est compliqué. Tout dépend où cette cave. Donc ça, c'est la question idéale. Des fois, on va prendre un emplacement d'un point de vue commercial et pas forcément sur cette question de stockage. Mais si on a la possibilité de pouvoir faire des aménagements, surtout si on fait quelque chose de neuf, de penser en effet à comment, j'allais dire, cette circulation, on va dire, de matériel peut être faite. Ensuite, il y a comment je vais stocker et le rangement que je vais avoir en tant que tel. Il faut essayer de privilégier, puisqu'ensuite ces rangements vont être utilisés au quotidien, qu'ils soient... En fait, la règle, c'est de pouvoir se dire, en termes de manutention, il faut que ce soit entre mon bassin et mon épaule. Idéalement, quand je dois prendre des choses lourdes, idéalement, quand c'est trop bas ou quand c'est trop haut, alors trop haut, ça pose plus de problèmes que trop bas, parce que trop bas, à la limite, on peut s'abaisser, on peut se plier et utiliser les jambes. Par contre, souvent, quand on va prendre... alors c'est vrai que c'est très joli, des fois, d'avoir les bouteilles, les verres qui sont en hauteur, mais dès qu'on va dépasser la hauteur de l'épaule et même, on dirait des fois, la hauteur du cœur, en fait, ce sont des mouvements en fait répétés qu'il faut essayer d'éviter au maximum, surtout s'ils sont routiniers. J'ai eu une fois une conversation avec un restaurateur qui a été gérant restaurateur, ce que j'appelle les ouvriers patrons, qui a donc travaillé pendant 20 ans, 30 ans dans son restaurant. On dirait pas, mais faire du café, c'est beaucoup de gestes, c'est souvent les tasses sont toujours au-dessus, parce qu'on peut se dire une tasse c'est pas lourd, donc finalement de la prendre, mais c'est des gestes à chaque fois. Quand on voit le nombre de cafés qui sont des fois servis, je vais prendre toujours en hauteur, je vais prendre au-dessus de l'épaule. Donc c'est d'essayer à ce que les frigos, bien sûr, soient plutôt des verticaux, d'éviter tout ce qui est horizontaux, même pour la cuisine en tant que telle. Il existe aussi des fois des frigos à tiroirs, des fois ça existe au niveau des bars. justement par rapport à leur plan de travail, ils ont souvent au-dessous un tiroir qui permet en fait de pouvoir rapidement sortir en effet les sodas ou les bouteilles en tant que telles. C'est d'avoir un petit peu cette... est-ce que le maximum en fait des choses surtout lourdes soit dans cette taille-là. Donc ça, c'est des choses à essayer de voir aussi avec du matériel. Il peut avoir en effet des financements pour avoir ce genre de choses. C'est d'avoir aussi des dessertes provisoires, que ce soit autant pour servir les clients au niveau des tables ou que ce soit pour ranger tout ce qui est vaisselle, surtout si c'est en hauteur, de pouvoir en effet avoir un moment où je peux poser à hauteur justement de mon bassin ou de mon ventre les choses pour pouvoir ensuite les ranger. C'est de penser à ce genre de... Là, on est plus sur de l'organisation matérielle et d'organisation du stockage. Après, pour justement les serveurs qui sont debout toute la journée, comme je vous dis, hein, c'est pas d'un point de vue, même en tant que client, on n'accepterait pas de voir des personnes assises pour se reposer en tant que telles, de peut-être se dire qu'au niveau de l'encaissement, si le serveur fait aussi l'encaissement, tout dépend de l'organisation de l'hôtel-restaurant, de peut-être imaginer des assis debout, hein, vous savez, qui permet d'être quand même en posture debout, mais d'un petit peu s'asseoir, ça peut être aussi des choses qui peut être fait, qui permet d'avoir, pendant quelques secondes, le temps de faire l'encaissement, d'avoir peut-être une posture un tout petit peu différente. On n'y pense pas, mais les chaussures. Alors, soit en effet, l'employeur peut fournir ou pas des chaussures de travail. Ce n'est pas toujours le cas, et notamment chez les saisonniers. Mais ça, on en parlera éventuellement sur des conseils. Mmh. Une bonne chaussure, en fait, confortable. Alors, c'est vrai qu'on a aussi des restaurants de qualité qui sont étoilés dans notre département. Donc, c'est vrai que la tenue vestimentaire des serveurs et du personnel de salle est très importante d'un point de vue image. Et c'est vrai qu'il peut avoir des chaussures peut-être très belles, mais pas toujours confortables. Donc, il faut penser aussi à la question d'avoir des chaussures, en fait, confortables.
Qu'est-ce que vous appelez chaussures confortable?
Mais qui permet en fait de se dire...
Une paire de tennis par exemple, est-ce qu'une paire de tennis est confortable?
On peut, après c'est pas toujours, il faut trouver le juste milieu entre l'image qu'on veut donner en fonction du standing du restaurant et du côté confortable. Donc les baskets, je suis pas sûre que dans tous les restaurants soient...
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je veux dire, il faut que le salarié se sente bien, ne se sente pas à l'étroit.
Voilà, d'accord. Il va rester quand même longtemps debout, donc il faut qu'il se sente à l'aise. Au-delà de la question des chaussures ou pas antidérapantes, mais ça c'est plutôt si en effet on va souvent dans la cuisine, puisque comme je vous ai dit, le risque de chute aussi, de glissade, est plus fréquent bien sûr dans l'hôtel-restauration, compte tenu des actions de nettoyage et d'hygiène qui sont faites. Donc on n'y pense pas toujours, mais finalement de bonnes chaussures, c'est aussi important. De penser aussi en termes d'organisation, quand il y a les livraisons faites par les livreurs, de peut-être se dire que certaines actions, de peut-être les faire à deux. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident de les avoir, mais si c'est possible, quand il y a surtout une grande approvisionnement, de peut-être se dire on n'est pas seul, on peut être à deux en tant que tel. Les tailles des plateaux aussi. D'avoir des... Alors, c'est pas un investissement important, mais peut-être se dire aussi que les plateaux, il existe plusieurs tailles de plateaux en fonction justement de la destination. Et aussi peut-être aussi d'imaginer aussi en fonction si la personne qui est grande, qui est petite, qui est plus frêle, etc., de peut-être se dire qu'on adapte en fait la taille des plateaux aussi à l'homme, enfin au serveur, et aussi en fonction de la destination de ce qu'on fait, si c'est bien sûr que du café, que de restaurant, mais d'avoir plusieurs types de plateaux qui permettent d'être adaptés en fonction des personnes. Donc ça, ce sont des choses qui sont un peu plus faciles à mettre en place, et aussi peut-être former aussi son personnel à savoir justement quels sont les bons gestes en tant que tel. On parlait des jeunes saisonniers, c'est vrai quand on a 25 ans, quand on a 20 ans, on peut se dire c'est facile, je peux rapidement soulever des caisses de 25 kilos, 30 kilos, il n'y a pas de souci, mais c'est l'usure auquel il faut faire attention, donc justement de les former au plus tôt. Un jeune peu expérimenté, c'est forcément la personne qui est le plus exposée, j'allais dire, à ces risques-là.
Est-ce que les employeurs se sentent concernés par tout ça ou alors, bien souvent, il faut leur rappeler?
Alors, c'est très variable, bien sûr, la question, mais ce n'est pas que lié à l'hôtel-restauration. Mais ça peut être avoir un facteur accentué dans l'hôtel-restauration du fait de l'activité saisonnière. Donc c'est vrai qu'un hôtel-restaurant ou une restauration qui a vraiment une permanence tout le long de une activité, on va dire, tout le long de l'année, qui va avoir plutôt des salariés, j'allais dire en CDI, va peut-être avoir beaucoup plus justement une attention sur les risques professionnels, parce que le but du jeu, c'est de former ses salariés et de les garder. Donc il a un enjeu de moyen terme. Sur des activités saisonnières qui touchent beaucoup l'hôtel-restauration, et notamment dans nos départements très touristiques, comme justement on va avoir une activité qui va s'accroître sur 3-4 mois, on va avoir en effet des salariés saisonniers qui vont rester peu de temps. Donc on n'a pas forcément cette notion de risque à long terme, de risque, j'allais dire, différé. Donc c'est plus une méconnaissance, parce qu'il y a vraiment réussir, j'allais dire, sa saison, plutôt que de penser des fois sur des risques plus ou moins à long terme. Quand on fait une activité pendant 3-4 mois, on ne pense pas finalement que peut-être ce salarié saisonnier qui va faire peut-être plusieurs saisons, en tant que restaurateur, comment je contribue, moi, sur toute sa carrière, finalement, à lui expliquer les bons gestes et les bonnes façons de fonctionner en tant que tel. Souvent, c'est aussi ces restaurateurs, les périodes basses, c'est souvent eux-mêmes aussi qui travaillent. Donc aussi, peut-être à penser à leur propre activité professionnelle et à leur propre usure professionnelle. Donc je pense qu'ils ont tout un intérêt à pouvoir faire à ce que l'agencement et l'organisation de leur restaurant soient adaptés aussi à eux-mêmes en tant que tel, et quelle que soit, j'allais dire, l'activité saisonnière et les saisonniers qu'ils peuvent avoir dans leur restaurant.
Oui, parce que bien souvent, c'est le cas, ils travaillent aussi dans leur restaurant, donc ils sont exposés aussi.
Tout à fait, au même risque, et souvent, ce sont des passions. Je leur souhaite que ce soit une passion, donc ils exercent souvent ce métier-là pendant plusieurs années. Et ces gestes, en effet, répétés. Hein. Je reviens à ce que m'a dit un restaurateur, hein, qui a lui-même servi les cafés, fait le service de salle. Voilà, il s'est vite rendu compte que porter 7 kilos à bout de bras, forcément, ensuite, à partir justement d'un certain âge, on commence à en payer, j'allais dire, les conséquences sur sa santé.
Alors, à l'inverse, les métiers administratifs semblent moins physiques, mais pour autant, comme je le disais tout à l'heure, rester devant un écran toute la journée représente aussi des risques. Pourquoi ? Et quels sont les effets de la sédentarité ? Ah, pardon.
Oui. On pourrait poser la question sur les conseils pour les jeunes. Quel conseil donneriez-vous ?
Alors, quel conseil ? Je reprends. Quel conseil, alors, Marie, vous pourriez donner ? N'importe quoi, Marie, c'est la dame que j'ai. N'importe quoi. Alors, c'est parti. Quel conseil, Madame Magnan, donneriez-vous ?
Alors, pour les saisonniers notamment, ou pour les serveurs, j'allais dire quatre conseils. De penser à son dos. C'est vrai que dans tous les gestes qu'ils doivent faire, que ce soit avant ou après le service et pendant le service, c'est vraiment de se dire que son dos, il faut au maximum, quelles que soient les manutentions que je dois faire ou le service, de garder le dos le maximum, j'allais dire vertical, d'éviter au maximum de se pencher en tant que tel. Alors des fois, ce n'est pas toujours des exercices aisés quand les tables sont basses en tant que tel, mais vraiment, c'est de préserver son dos. La deuxième chose, c'est vraiment porter les choses le plus près, en fait, du corps. Et notamment, quand on porte un plateau, hein, c'est de pouvoir appuyer son coude, justement, sur son bassin. Ça permet, justement, d'alléger, en tout cas, une partie des membres supérieurs. Donc, normalement, ce sont des techniques qu'on apprend. Hein, et je rappelle qu'on a aussi des filières d'apprentissage dans les Alpes de Haute-Provence en hôtel-restauration. Mais c'est un métier, en effet, hein, de savoir porter correctement et le plus proche, en fait, de son corps, d'éviter tout ce qui est à bout de bras, surtout quand on dépasse un certain poids de 3 kg. En tant que tel. Les chaussures, je reviens, c'est vrai que pas toujours, et ça peut se comprendre, hein, au niveau du service, les chaussures ne sont pas forcément fournies par l'employeur, c'est plutôt en cuisine qu'on va retrouver ce genre de choses, mais de penser en effet à des chaussures confortables qui répondent quand même aussi aux exigences éventuellement de clientèle. Mais il faut se sentir à l'aise en tout cas dans ces chaussures. Et si possible, dès qu'il y a vraiment de la manutention assez lourde, de plutôt être à deux en tant que tel. Mais des fois, il y a aussi des petits gestes, hein, qu'on peut apprendre. C'est vrai que quand on sert, quand on dresse en effet une table ou quand on débarrasse, ben des fois, plutôt que d'être à bout de bras, de se dire « vaut mieux faire peut-être le tour de la table pour bien débarrasser », plutôt que d'être à bout de bras, ou en tout cas de s'appuyer en effet sur un bras pour pouvoir, dès lors qu'on est un peu en distance, hein, c'est vrai que c'est pas facile d'être visuel quand on est à la radio, mais quand on nettoie, on va dire par exemple une table, dès qu'on est un peu trop à bout de bras, de penser à poser sa main sur la table ou en fonction de la taille de la table de tourner. Donc c'est des petits gestes comme ça, mais qui permet en effet de préserver ses articulations sur long terme.
Ouais, super. Je ne savais pas qu'il fallait. Vous voyez, c'est intéressant tout ce que vous dites. Non, mais c'est intéressant.
Il faut éviter le bout de bras.
Ben oui. Vous me dites, hein, quand vous voulez parler des salariés administratifs.
C'est bon.
Les salariés administratifs, là, c'est quand on ne bouge pas assez.
Exactement. Donc là, le but du jeu, c'était de prendre, on va dire, en fait, les opposés. Parce que, comme j'ai dit en introduction, finalement, les serveurs, leurs 8000 pas ou 10 000 pas, ce qui est souvent recommandé en termes de santé publique, ils les font. Donc c'est vrai que l'activité, ce qu'on appelle physique, je ne dis pas sportif, c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein, l'activité sportive, c'est vraiment une activité physique intense. Les métiers administratifs, mais pas que, ce qu'on appelle la sédentarité au travail, finalement, génère aussi des problèmes sur du long terme, parce qu'on pourrait croire que finalement, je ne fais pas d'efforts physiques, donc c'est bien pour mon corps. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vrai que tous les métiers administratifs qui font qu'on est assis, comme vous avez dit en introduction, devant un écran, ce n'est pas bon. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi les conducteurs de bus, les conducteurs aussi de transport qui sont finalement assis surtout sur des longs trajets en tant que tels, mais aussi des fois des conducteurs d'engins qui peut-être eux, même si leurs collègues sont peut-être eux au sol et vont faire de l'activité physique, eux vont se retrouver finalement avec beaucoup moins d'activité physique de leur corps, et des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et des fois sur toute une journée entière de 7 heures à 8 heures.
Donc quels sont les risques sur la santé par exemple pour le dos, les cervicales, le système cardiovasculaire?
Alors en effet,
quel risque ?
On n'y pense pas, on ne croit pas de tous les effets qu'il peut avoir, parce qu'en fait le fondement premier, le corps est fait pour bouger. Et beaucoup de fonctionnements vitaux en fait du corps est vraiment lié à l'activité physique. En effet, musculaire et de son propre corps. La circulation sanguine fonctionne avec le mouvement.
La lymphe aussi.
Hein, aussi, tout à fait. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais essayer de focaliser sur quatre points principaux. La marche est importante parce qu'elle sert en fait de pompe, si vous voulez, pour tout ce qui est le retour sanguin. Donc, il y a un effet, la sédentarité, justement, contre le fonctionnement, j'allais dire, de la circulation sanguine, qui fait que ça va accroître, en fait, on n'irait pas comme ça, mais des maladies cardiovasculaires, en tout cas le risque de maladies cardiovasculaires. Ça aussi a un effet sur son taux de sucre. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des problématiques d'alimentation, de diabète ou de prédiabète aujourd'hui dans la population en tant que telle, qui est une maladie très handicapante en tant que telle. Mais il faut savoir que aussi le mouvement, l'utilisation en fait des muscles, vont favoriser, j'allais dire, le métabolisme en fait du sucre. Donc ça a aussi un influence sur le taux de sucre qu'on peut avoir en fait dans le sang. Il y a une troisième chose auquel on ne pense pas, mais c'est aussi l'oxygénation du cerveau pour toutes les facultés, j'allais dire, cognitives, mine de rien, de concentration, de réflexion. Et bien sûr, ça aussi, ça joue sur la masse en fait osseuse, parce que le corps est fait pour fonctionner, sa masse aussi osseuse est liée, alors c'est plus au niveau de l'adolescence et de la puberté, mais en fait ce qu'on appelle les impacts en fait sur les articulations renforce, j'allais dire, la masse osseuse en tant que telle. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'effets, et aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet-là, qui aussi interpelle sur la question en fait du vieillissement. Vous parlez du vieillissement, mais la sédentarité, justement, fait qu'on va moins bien vieillir et moins longtemps. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, on perd... on va dire des points de vie, pour parler un peu plus jeune en tant que tel, mais on ne se rend pas compte de cet effet en fait délétère sur sa durée de vie.
Alors, est-ce qu'un bon fauteuil, par exemple, et un poste de travail ergonomique suffit? Ou alors, est-ce qu'il faut surtout apprendre, par exemple, à interrompre régulièrement les périodes assises, on se lève un petit peu, on va marcher? Comment on peut réorganiser au niveau du travail?
Alors c'est vrai que pour la question de lutter contre la sédentarité principale, c'est l'activité en fait physique, c'est l'inaction qui n'est pas bonne en tant que telle, puisqu'en fait ça va, d'un point de vue aussi musculaire, puisqu'on parle aussi des troubles surtout TMS, va faire en fait qu'il va avoir une mauvaise adaptation en fait motrice en tant que telle. Donc c'est vrai que le siège ergonomique va permettre de limiter certains types de TMS d'un point de vue mal de dos, ou tout ce qui va être aussi quand on travaille sur écran, d'un point de vue aussi membre supérieur en tant que tel. Mais c'est l'inactivité qui va créer des plus gros problèmes. En fait, de ce qui se dit dans la littérature, à partir de 3 heures, statiques inactif, en fait, c'est là où on commence à voir des effets sur la santé. Et il ne faut pas croire de se dire, OK, j'ai un travail administratif pendant 7 heures, 8 heures, c'est pas grave, je ferai mon sport ce soir, je vais faire une heure. En fait, c'est une heure de fin de journée ne compense absolument pas l'inactivité en fait du corps. Donc idéalement, c'est souvent se dire au bout d'une heure et demie, il faut avoir au moins une activité de son corps physique. Alors il y a plusieurs choses, soit on peut en effet faire à ce que dans son métier, on ne se rend pas compte, mais justement on se lève, que ce soit sur des postes, on va dire des fois d'accueil, hein. Des fois quand on est sur des banques d'accueil, on va se lever pour pouvoir... Alors c'est vrai que être debout statiquement, ce n'est pas non plus très bien, mais c'est déjà mieux d'un point de vue activité musculaire, vous êtes déjà en mouvement. Donc faut privilégier bien sûr... marcher, les escaliers plutôt que les ascenseurs, même si on n'a pas beaucoup d'immeubles dans le 04 avec vraiment plusieurs étages des ascenseurs, mais c'est important de penser à ça, de justement se lever. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de l'imprimante et de la copie, ça se fait de moins en moins puisque tout est numérisé, mais ça veut aussi des fois l'avantage de dire je me lève et justement d'éviter à ce que tout ce qui est dans mon environnement immédiat, je n'ai plus à me lever. Donc ça, c'est justement de pouvoir se dire, il faut que je trouve des occasions, alors soit professionnelles aussi, hein, puisque si on va parler de temps de pause, je sais que pour les employeurs, ils vont dire ben non, les temps de pause, c'est pas fait. Voilà, il faut quand même travailler en tant que tel, mais je ferai une petite anecdote sur la question justement de cette activité physique d'un point de vue aussi cognitif. Donc il faut trouver en effet des occasions de dire il faut que je me lève, soit parce que je vais boire un verre d'eau, je fais petit rappel par rapport à la chaleur où il faut boire. Pour pouvoir voir un client, il faut savoir aussi que de plus en plus dans le matériel de bureau, il existe des bureaux ajustables qui permet justement de pouvoir être en situation debout. Il existe aussi des réunions qui se font de plus en plus debout. Alors des fois, pour certains employeurs, c'était éviter que les réunions aussi s'éternisent et qu'elles soient beaucoup plus efficaces. Mais c'est aussi notre façon de faire. Peut-être aussi de se dire, quand les locaux sont proches les uns et les autres, plutôt que de dire, j'envoie un mail à celui qui est juste à côté, peut-être je vais aller le voir et débriefer d'abord d'un point de vue qualité du dialogue et de la relation, c'est souvent peut-être mieux, c'est trouver en fait tout ce genre de petites actions de travail qu'on peut faire. Et aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle des pauses dites actives, soit des petits étirements, soit se lever. Ce qu'il existe aussi, pour ceux qui sont vraiment assis, vous avez des sortes de sièges qui peuvent se rajouter sur un siège ergonomique, qui justement vous créent de l'instabilité. Et qui fait que, justement, votre paroi abdominale doit être en fait en tension pour que vous puissiez garder, d'accord, en fait, toujours... Alors, il ne faut peut-être pas le faire pendant les 7 heures de son travail, mais de temps en temps, de pouvoir... C'est en plus pas très onéreux, hein. Vous pouvez avoir des prix entre 30 et 40 euros en tant que tel, qui permet en fait, pendant peut-être une demi-heure, une heure, je vais l'utiliser, et ce qui fait en fait que mon corps va être automatiquement, je ne vais pas forcément me rendre compte, mais forcément ma paroi abdominale, mes muscles vont être en fonctionnement pour réajuster à chaque fois ma posture. Donc ça, ce sont aussi des petites choses qui sont à voir. Pensez de temps en temps à faire... Même si c'est 5 minutes, quelques petits étirements qu'on peut avoir. Mais c'est surtout, si on est vraiment immobile pendant 3 heures, c'est vraiment la deadline qu'il faut vraiment se fixer, en fait. On ne récupère pas en faisant une activité le soir pendant une heure. Il faut aussi savoir que le télétravail a accentué ces problèmes de sédentarité. Parce que finalement, le fait d'aller aussi au travail, vous m'aviez expliqué, vous venez, je crois, en bus au travail.
En bus, oui. Donc, en ce moment, en voiture, mais
voilà,
l'hiver, en bus.
En voiture, ouais. Bon, alors c'est vrai qu'il n'y a pas toujours... On n'est pas en centre urbain avec des métros, mais il y a quand même aussi des transports collectifs qui existent. Mais tout ce genre de petites choses qui, finalement, si en télétravail, on supprime, c'est autant d'activités physiques en moins de sa journée. Donc c'est vraiment de se dire au bout d'une heure, une heure et demie, il faut que je fasse une activité, il faut que je me lève, il faut peut-être que je marche, il faut peut-être que je m'étire en tant que tel. Donc je sais que pour des fois, les employeurs, cette notion de pause ou de pause active n'est pas toujours acceptée d'un point de vue productivité, mais je rappelle aussi que le fonctionnement du corps est important pour l'oxygénation du cerveau. Et finalement, si on ne fait pas ces temps de pause, eh ben en fait, ça baisse en fait sa productivité. Ce qu'on n'a pas toujours le sentiment de se dire en tant qu'employeur, maintenant, on veut vraiment que son salarié soit à son poste de travail, soit constant, surtout s'il y a de l'accueil physique ou de l'accueil téléphonique. On ne veut pas d'interruption de travail pour des questions de productivité. Mais en fait, au bout d'une heure et demie, au bout de deux heures, En fait, il y a moins d'oxygénation en fait, du cerveau parce que notre corps fonctionne comme ça. Et notre cerveau a besoin pour ses facultés cognitives de concentration, de réflexion, a besoin de plus de réflexion. Donc la micro-pause, j'allais dire de 5 minutes au bout d'une heure ou d'une heure et demie, en fait, elle va améliorer en fait, la vigilance cognitive et la performance.
Peut-on dire que le problème est finalement, Madame Magnan, moins le fait de bouger ou de ne pas bouger que le fait de rester trop longtemps dans la même posture ou de répéter les mêmes gestes?
En fait, la sédentarité a beaucoup plus d'effets négatifs sur le long terme et sur sa durée de vie, en fait, que le fait de trop bouger. Même si, dans les deux cas, il y a une question en fait, de répétition. De durée, de fréquence en tant que telle, même si bien sûr les TMS, comme on a vu en introduction, peut être handicapante, surtout quand on a des tendinites qui sont installées, c'est vrai que ça va limiter certains types d'activités. Par contre, la sédentarité a vraiment un effet très très pervers sur l'état de santé, qu'on ne mesure pas tout de suite, mais on va le mesurer sur du moyen terme, puisque ça va vraiment toucher des fonctions, on va dire, vitales véritablement du corps. Donc ne pas bouger, la sédentarité, oui, va avoir des effets beaucoup plus négatif, donc il vaut mieux bouger. Après, on peut trouver des solutions pour éviter justement ces TMS, comme on a évoqué pour les serveurs. Mais par contre, ne pas bouger, on peut croire que c'est bien pour sa santé. Au contraire, c'est beaucoup plus pernicieux. Donc il faut vraiment cette activité physique, on n'a pas besoin de faire une activité sportive. Hein. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui se sont mises à faire vraiment à promouvoir le sport. Et ça, c'est très bien en termes de philosophie, on ne peut que cautionner. Mais on n'est pas obligé de dire, souvent il y a des gens qui vont dire « mais moi je ne suis pas sportif, l'activité ». Non, on parle vraiment d'activité physique.
Le mouvement, être en mouvement.
Voilà. Marcher, c'est très bien pour la santé. On n'a pas besoin d'être hyper sportif. Et on a besoin aussi pour éviter que justement aussi son corps, quand on va faire des simples gestes, prenons l'exemple, il y a quelque chose qui tombe par terre, je me baisse, je le prends, ah, je me fais mal. Il y a des fois certains employeurs qui disent, mais c'est juste baissé, comment il s'est fait mal? Ben justement, la sédentarité augmente justement ce risque parce que nos muscles et nos tendons ne sont plus du tout habitués. On lui demande de faire un effort auquel il n'est pas habitué. Et donc, finalement, on va aussi beaucoup plus se blesser sur des choses qu'on pourrait dire, mais c'est de l'activité courante. Mmh. Oui, parce que justement, on est trop sédentaire, on n'utilise pas suffisamment notre corps.
Quel est le lien entre santé physique et santé mentale?
Alors, les liens sont aujourd'hui assez affirmés d'un point de vue, j'allais dire, scientifique. Et c'est vrai que souvent, on va aborder les deux en termes de services de santé au travail sur ce côté TMS et risques psychosociaux. Alors, dans un sens, en effet, alors quand on va parler de facteurs psychosociaux, ou ce qu'on dit RPS, tout ce qui va être le stress ou les relations de travail, qu'elles soient avec les clients aussi, puisqu'on parlait des métiers de l'hôtel-restauration, hein, le client super exigeant en termes de délai qui montre souvent de l'impatience. Hein, et je rappelle aussi à tous les consommateurs que peut-être dans sa vie, on a été aussi salarié. Donc, ce qu'on ne tolère pas en tant que salarié, ça serait bien aussi en tant que client, on puisse aussi respecter les personnes qui nous font un service en tant que tel. En fait, ces tensions de travail, qu'elles soient ou avec les collègues ou, puisqu'on parlait de l'hôtel-restauration, hein, dans les communications entre la cuisine et la salle, vont faire que finalement, on va se retrouver en tension. Quand on dit « j'en ai plein le dos », finalement, nos muscles et nos tendons vont être en tension. Et quand on va leur demander justement un effort musculaire de manutention ou de port, ben justement, on va faire créer une contrainte en fait au niveau des muscles et des tendons qui va être contraire. Donc oui, le stress, la tension véritablement mise sur les muscles vont accentuer les problèmes en fait de TMS.
Et aggraver la douleur.
Et vous avez aussi l'effet aussi inverse, hein, quand on en a plein le dos en tant que tel, ben aussi ces problèmes de TMS, justement de douleur ou de petites douleurs qu'on peut avoir au quotidien, va justement influencer aussi sa santé mentale parce qu'on va avoir en effet un seuil de tolérance qui va être beaucoup plus bas, que ce soit par rapport à de l'impatience, par rapport à une réclamation client, par rapport à entre services éventuellement des incompréhensions ou des problématiques de travail qui fait que ça va augmenter en effet les sensibilités et au contraire augmenter la charge mentale. Donc oui, il y a suffisamment aujourd'hui de littérature montrer ces deux effets en tant que tel, et notamment sur cette tension, on va dire, musculaire qui est posée. Donc on essaye d'avoir une vision sur les deux. Quand on analyse des postes de travail d'un point de vue TMS, c'est pour ça aussi qu'on pose des questions sur les relations de travail. Parce que des fois, on dit, mais non, mais on vous demande simplement d'analyser un poste de travail d'un poste administratif ou d'un conducteur de travaux. Mmh. Et des fois, on va poser d'autres questions en tant que telles qui sont sur les relations de travail parce qu'on connaît cet effet. Quand on dit ergonomie, souvent, on dit, c'est la qualité du fauteuil. Mmh. C'est pas que ça, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est vraiment prendre en considération l'ensemble des facteurs qui sont biomécaniques, mécaniques, environnementaux, de relationnel de travail, qui vont vraiment agir en fait sur l'état de santé, en prenant toujours aussi en considération la rentabilité de l'entreprise. Voilà, parce que quand on parlait des TMS, de dire on est deux pour faire certaines tâches, c'est pas toujours facile économiquement. Revenons sur les métiers de la restauration ou sur des métiers administratifs, si on a calibré tant de types de postes, parce que c'est lié à l'activité. Si je fais 20 couverts par jour ou si j'en fais 200, je vais calibrer c'est mon effectif la même chose, par rapport à ça. Oui. Donc il faut aussi que l'ergonomie, que ce soit dans l'organisation ou dans le matériel, puisse prendre en considération ces contraintes économiques pour justement préserver la santé au travail. Donc quand on pose des questions aussi sur l'organisation, sur les qualités de relations, soit avec les clients, soit en interne, c'est qu'en fait on sait, c'est largement prouvé dans la littérature scientifique, des effets de l'un par rapport à l'autre, l'un aggravant ou pas, ou justement réduisant aussi le risque éventuellement TMS ou RPS. Quand on améliore aussi l'un, on améliore aussi l'autre. Voilà.
Eh bien, merci Madame Magnan. Pour la prochaine émission, quel thème sera abordé ?
Pour la rentrée, on va parler du risque routier professionnel en tant que tel. On va aussi faire toute une manifestation le 24 septembre à Sisteron. Donc, ça sera l'opportunité de parler de ce risque qui est un risque important, qui est un risque là par contre grave en tant que tel, qui est un des premiers risques professionnels et qui touche bien sûr aussi plusieurs secteurs d'activité. Il y a bien sûr le BTP qui est concerné, mais tout ce qui est livreur, tout ce qui est conducteur, tout ce qui est aussi commerciaux et aussi d'autres types de métiers qui font aussi des services aussi à domicile en tant que tel ou qui font vraiment aussi du B2B pour les commerciaux. Donc ça sera le sujet de la rentrée, le risque routier, ses différentes formes et comment en effet on peut essayer aussi de prévenir ce risque important.
Merci Madame Magnan.
Merci Nathalie.
Partenaire de Fréquence Mistral, AISMT 04 du réseau Présence PACA Corse, votre partenaire santé au travail, présent à vos côtés.